Chronique du règne de Charles IX, chapitre 2, le lendemain d'une fête. Il était grand jour depuis longtemps quand Mergis s'éveilla, la tête encore un peu troublée par les souvenirs de la soirée précédente. Ses habits étaient étendus pêle-mêle dans la chambre et sa valise était ouverte à terre. Se levant sur son séant, il considéra quelque temps cette scène de désordre en se frottant la tête comme pour rappeler ses idées. Ses traits exprimaient à la fois la fatigue, l'étonnement et l'inquiétude. Un pas lourd se fit entendre sur l'escalier de pierre qui conduisait à sa chambre. La porte s'ouvrit sans que l'on eût daigné frapper, et l'aubergiste entra avec une mine encore plus renfrognée que la veille. Mais il était facile de lire dans ses regards une expression d'impertinence qui avait remplacé celle de la peur. Il jeta un coup d'œil sur la chambre et se signa comme saisi d'horreur à la vue de tant de confusion. « Ah ah ! Mon jeune gentilhomme » s'écria-t-il. « Encore au lit ? Ça, levons-nous, car nous allons avoir nos comptes à régler. » Mergis, bâillant d'une manière effrayante, mit une jambe hors du lit. « Pourquoi tout ce désordre ? Pourquoi ma valise est-elle ouverte ? » demanda-t-il d'un ton au moins aussi mécontent que celui de l'hôte. « Pourquoi ? Pourquoi ? » répondit celui-ci. « Qu'en sais-je ? Je me soucie bien de votre valise. Vous avez mis ma maison dans un bien plus grand désordre. Mais par Sainte Eustache, mon bon patron, vous me le paierez. » Comme il parlait, Mergis passait son haut de chausse d'écarlate et, par le mouvement qu'il faisait, sa bourse tomba de sa poche ouverte. Il faut que le son qu'elle rendit lui parut autre qu'il ne s'y attendait, car il la ramassa sur le champ avec inquiétude et l'ouvrit. « On m'a volé !» s'écria-t-il en se tournant vers l'aubergiste. Au lieu de 20 écus d'or que contenait sa bourse, il n'en trouvait que 2. Maître Eustache haussa les épaules et sourit d'un air de mépris. « On m'a volé !» répéta Mergis en nouant sa ceinture à la hâte. « J'avais 20 écus d'or dans cette bourse, et je prétends les ravoir. C'est dans votre maison qu'ils m'ont été pris. »« Par ma barbe, j'en suis bien aise !» s'écria insolemment l'aubergiste. « Cela vous apprendra à vous enger de sorcières et de voleuses. »« Mais, » ajouta-t-il plus bas, « qui se ressemble s'assemble. Tout ce bon gibier de grève, hérétique, sorcier et voleur, se hante et fraye ensemble. » « Que dis-tu, maraud ? » s'écria Mergis, d'autant plus en colère qu'il sentait intérieurement la vérité du reproche. Et, comme tout homme dans son tort, il saisissait aux cheveux l'occasion d'une querelle. « Je dis, » répliqua l'aubergiste en élevant la voix et mettant le poing sur la hanche, « je dis que vous avez tout cassé dans ma maison et je prétends que vous me payez jusqu'au dernier sou. Je paierai mon écho et pas un liard de plus. » « Où est le capitaine Hornstein ?»« On m'a bu !» continua Maître Eustache, criant toujours plus haut. « On m'a bu plus de 200 bouteilles de bon vin vieux, mais vous m'en répondrez !» Mergis avait fini de s'habiller tout à fait. « Où est le capitaine » cria-t-il d'une voix tonnante. « Il est parti, il y a plus de 2 heures. Et puisse-t-il aller au diable ainsi que tous les huguenots en attendant que nous les brûlions tous ?» Un vigoureux soufflet fut la seule réponse que Mergis put trouver dans le moment. La surprise et la force du coup firent reculer l'aubergiste de 2 pas. Le manche de corne d'un grand couteau sortait d'une poche de sa culotte. Il y porta la main. Sans doute, quelque grand malheur serait arrivé s'il eût cédé au premier mouvement de sa colère. Mais la prudence arrêta l'effet de son courroux en lui faisant remarquer que Mergis étendait la main vers le chevet de son lit, d'où pendait une longue épée. Il renonça aussitôt à un combat inégal et descendit précipitamment l'escalier en criant à tue-tête « Au meurtre ! Au feu !» Maître du champ de bataille, mais fort inquiet des suites de sa victoire, Mergis boucla son ceinturon, y passa ses pistolets, ferma sa valise et, la tenant à la main, il résolut d'aller porter sa plainte au juge le plus proche. Il ouvrit sa porte, et il mettait le pied sur la première marche de l'escalier quand une troupe ennemie se présenta inopinément à sa rencontre. L'hôte marchait le premier, une vieille hallebarde à la main. trois marmitons, armés de broches et de bâtons, le suivaient de près. Un voisin, avec une arquebuse rouillée, formait l'arrière-garde. De part et d'autre, on ne s'attendait pas à se rencontrer si tôt. Cinq ou six marches seulement séparaient les deux parties ennemies. Mergy laissa tomber sa valise et saisit un de ses pistolets. Ce mouvement hostile fit voir à Maître Stache et à ses acolytes combien leur ordre de bataille était vicieux. Ainsi que les Perses à la bataille de Salamine, ils avaient négligé de choisir une position où leur nombre pût se déployer avec avantage. Le seul de leurs troupes, qui portât une arme à feu, ne pouvait s'en servir sans blesser ses compagnons qui le précédaient, tandis que les pistolets du Huguenot, en filant toute la longueur de l'escalier, semblaient devoir les renverser tous du même coup. Le petit claquement que fit le chien du pistolet quand Mergy l'arma retentit à leurs oreilles et leur parut presque aussi effrayant qu'aurait été l'explosion même de l'arme. D'un mouvement spontané, la colonne ennemie fit volte-face et courut chercher dans la cuisine un champ de bataille plus vaste et plus avantageux. Dans le désordre inséparable d'une retraite précipitée, l'hôte, voulant tourner sa hallebarde, l'embarrassa dans ses jambes et tomba. En ennemi généreux, dédaignant de faire usage de ses armes, Mergy se contenta de lancer sur les fugitifs sa valise, qui, tombant sur eux comme un quartier de roc et accélérant son mouvement à chaque marche, acheva la déroute. L'escalier demeura vide d'ennemis et la hallebarde rompue restait pour trophée. Mergy descendit rapidement dans la cuisine, où déjà l'ennemi s'était reformé sur une seule ligne. Le porteur d'arquebuse avait son arme haute et soufflait sa mèche allumée. L'hôte, tout couvert de sang, car son nez avait été violemment meurtri dans sa chute, se tenait derrière ses amis, tel que Ménélas, blessé, derrière les rangs des Grecs. Au lieu de Macaon ou de Podalyre, sa femme, les cheveux en désordre et sa coiffe dénouée, lui essuyait la figure avec une serviette sale. Mergy prit son parti sans balancer. Il marcha droit à celui qui tenait l'arquebuse et lui présenta la bouche de son pistolet à la poitrine. « Jette la mèche ou tu es mort » s'écria-t-il. La mèche tomba à terre et Mergy, appuyant sa botte sur le bout de corde enflammé, l'éteignit. Aussitôt, tous les confédérés mirent bas les armes en même temps. « Pour vous, » dit Mergy en s'adressant à l'hôte, « la petite correction que vous avez reçue de moi vous apprendra sans doute à traiter les étrangers avec plus de politesse. Si je voulais, je vous ferais retirer votre enseigne par le bailli du lieu. Mais je ne suis pas méchant. Voyons, combien vous dois-je pour mon écho ?» Maître Stache, remarquant qu'il avait désarmé son redoutable pistolet et qu'en parlant, il le remettait à sa ceinture, reprit un peu de courage et, tout en s'essuyant, il murmura tristement « Briser les plats, battre les gens, casser le nez aux bons chrétiens, faire un vacarme d'enfer, je ne sais comment après cela on peut dédommager un honnête homme. »« Voyons, » reprit Mergy en souriant, « votre nez cassé, je vous le paierai ce qu'il vaut selon moi. Pour vos plats brisés, adressez-vous aux reîtres, c'est leur affaire. Reste à savoir ce que je vous dois pour mon souper d'hier. » L'hôte regardait sa femme, ses marmitons et son voisin comme s'il eût voulu leur demander à la fois conseil et protection. « les reîtres, » dit-il, « voir de leur argent, ce n'est pas chose aisée. Leur capitaine m'a donné 3 livres et le cornet un coup de pied. » Mergy prit un des écus d'or qui lui restait. « Allons, » dit-il, « séparons-nous, bons amis. » Et il le jeta à Maître Eustache, qui, au lieu de tendre la main, le laissa dédaigneusement tomber sur le plancher. « Un écu, » s'écria-t-il, « un écu pour 100 bouteilles cassées, un écu pour ruiner une maison, un écu pour battre les gens. Un écu, rien qu'un écu, » reprit la femme, sur un ton aussi lamentable. Il vient ici des gentilshommes catholiques qui parfois font un peu de tapage, mais au moins ils savent le prix des choses. » Si Mergy avait été plus en fond, il aurait sans doute soutenu la réputation de libéralité de son parti. « À la bonne heure, » répondit-il sèchement. mais ces gentils hommes catholiques n'ont pas été volés. Décidez-vous, ajouta-t-il, prenez cet écu ou vous n'aurez rien. » Et il fit un pas comme pour le reprendre. L'hôtesse le ramassa sur le champ. « Allons, qu'on m'amène mon cheval. Et toi, quitte cette broche et porte ma valise. »«
Votre cheval, mon gentilhomme ?» dit l'un des valets de maître Eustache en faisant une grimace.
L'hôte, malgré son chagrin, releva la tête et ses yeux brillèrent un instant d'une expression de joie maligne.
« Je vais vous l'amener moi-même, mon bon seigneur. Je vais vous amener votre bon cheval. »
Et il sortit, tenant toujours la serviette devant son nez. Mergy le suivit. Quelle fut sa surprise quand, au lieu du beau cheval alezan qui l'avait amené, il vit un petit cheval pis, vieux, couronné et défiguré encore par une large cicatrice à la tête. Au lieu de sa selle de fin velours de Flandre, il voyait une selle de cuir garnie de fer, telle enfin qu'en avaient les soldats.
« Que signifie ceci? Où est mon cheval ?»«
Que votre seigneurie prenne la peine d'aller le demander à messieurs les reîtres protestants, » répondit l'hôte avec une feinte humilité. « Ces dignes étrangers l'ont emmené avec eux. Il faut qu'ils se soient trompés à cause de la ressemblance. »«
Beau cheval, » dit un des marmitons, « je parierais qu'il n'a pas plus de 20 ans. »«
On ne pourra nier que ce cheval soit un cheval de bataille, » dit un autre. « Voyez quel coup de sabre il a reçu sur le front. »«
Oh, quelle superbe robe, » ajouta un autre.
« C'est comme la robe d'un ministre, noir et blanc. » Mergy entra dans l'écurie, qu'il trouva vide.
« Et pourquoi avez-vous souffert qu'on emmenât mon cheval ? » s'écria-t-il avec fureur.
« Dame, mon gentilhomme, » dit celui des valets qui avait soin de l'écurie, « c'est le trompette qui l'a emmené, et il m'a dit que c'était un troc arrangé entre vous deux. »
La colère suffoquait Mergy, et, dans son malheur, il ne savait à qui s'en prendre.
« J'irai trouver le capitaine, » murmura-t-il entre ses dents. « Et il me fera justice du coquin qui m'a volé. »«
Certainement, » dit l'autre, « votre seigneurie fera bien. »«
Car ce capitaine, comment s'appelait-il ? Il avait toujours la mine d'un bien honnête homme. »
Et Mergy avait déjà fait intérieurement la réflexion que le capitaine avait favorisé, sinon commandé, le vol.
« Vous pourrez, par la même occasion, » ajouta l'hôte, « vous pourrez ravoir vos écus d'or de cette jeune demoiselle. Elle se sera trompée, sans doute, en faisant ses paquets au petit jour.
Attacherai-je la valise de votre seigneurie sur le cheval de votre seigneurie ? » demanda le garçon d'écurie, du ton le plus respectueux et le plus désespérant.
Mergy comprit que plus il resterait, plus il aurait à souffrir des plaisanteries de cette canaille. La valise attachée, il s'élança sur la mauvaise selle, mais le cheval, se sentant un maître nouveau, conçut le désir malin d'éprouver ses connaissances dans l'art de l'équitation. Il ne tarda pas beaucoup, cependant, à s'apercevoir qu'il avait affaire à un excellent cavalier, moins que jamais disposé à souffrir ses gentillesses. Aussi, après quelques ruades bien payées par de grands coups d'éperon fort pointus, il prit le sage parti d'obéir et de prendre un grand trot de voyage. Mais il avait épuisé une partie de sa vigueur dans sa lutte avec son cavalier, et il lui arriva ce qui arrive toujours aux rosses en pareil cas. Il tomba, comme l'on dit, en manquant des 4 pieds. Notre héros se releva aussitôt, légèrement moulu, mais encore plus furieux à cause des huées qui s'élevèrent aussitôt contre lui. Il balança même un instant s'il n'irait pas en tirer vengeance à grands coups de plat d'épée. Cependant, par réflexion, il se contenta de faire comme s'il n'entendait pas les injures qu'on lui adressait de loin, et, plus lentement, il reprit le chemin d'Orléans, poursuivi à distance par une bande d'enfants dont les plus âgés chantaient la chanson de Jean Petaquin, tandis que les plus petits criaient de toute leur force « Huguenot, Huguenot, les fagots !» Après avoir chevauché assez tristement pendant près d'une demi-lieue, il réfléchit qu'il n'attraperait probablement pas les reîtres ce jour-là, que son cheval était sans doute vendu, qu'enfin,
il était plus que douteux que ces messieurs consentissent à le lui rendre. Peu à peu, il s'accoutuma à l'idée que son cheval était perdu sans retour. Et, comme dans cette supposition il n'avait rien à faire sur la route d'Orléans, il reprit celle de Paris, ou plutôt une traverse, pour éviter de passer devant la malencontreuse auberge témoin de ses désastres. Insensiblement, et comme il s'était habitué de bonne heure à chercher le bon côté de tous les événements de cette vie, il considéra qu'il était fort heureux, à tout prendre, d'en être quitte à si bon compte. Il aurait pu être entièrement volé, peut-être assassiné, tandis qu'il lui restait encore un écu d'or, à peu près toutes ses hardes, et un cheval qui, pour être laid, pouvait cependant le porter. S'il faut tout dire, le souvenir de la jolie Mila lui arracha plus d'une fois un sourire. Bref, après quelques heures de marche et un bon déjeuner, il fut presque touché de la délicatesse de cette honnête fille, qui n'emportait que 18 écus d'une bourse qui en contenait 20. Il avait plus de peine à se réconcilier avec la perte de son bel alezan. Mais il ne pouvait s'empêcher de convenir qu'un voleur plus endurci que le trompette aurait emmené son cheval sans lui en laisser un à la place. Il arriva le soir à Paris, peu de temps avant la fermeture des portes, et il se logea dans une hôtellerie de la rue Saint-Jacques.